et ce générique festif, pour le moins, nous fait le plus grand plaisir. Bonjour Rita Zuleim.
Oh, bonjour Didier, quel bonjour.
Stéphane Goldin nous le disait, ça fait 2 ans qu'il disait, il disait plus Boker Tov, parce que c'était pas jamais des bonnes journées. Aujourd'hui, on peut se le dire, j'ai bien aimé son image, et donc Boker Tov et Boker Or à vous.
Boker Or, Boker Tov, l'Echol Am Israël.
Oui, et vous, en plus, qui êtes israélienne,
ça
a encore plus de saveur ce jour pour vous.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, dans une chanson, une histoire, on va parler de Soukhot, d'une certaine manière, puisque la chanson que vous allez nous proposer aujourd'hui est Ha-Oreach, ce qui veut dire le visiteur, interprété par le groupe Hakol Over Habibi, c'est pas d'hier, mais ni même d'avant-hier, c'est un peu plus loin, mais c'est toujours aussi agréable à écouter, et c'est une chanson écrite et composée, j'ai presque envie de dire encore, par l'incontournable Naomi Shemer.
En effet, elle est incontournable, donc c'est encore. Eh ben, ce groupe musical Hakol Over Habibi est composé d'une extraordinaire chanteuse, Shlomit Aharon, et de 3 chanteurs, dont Yuval Dor, qui fut son mari pendant 25 ans. Ils sont notamment connus pour avoir représenté Israël au concours Eurovision 1981 avec la chanson Halayla. Halayla, Halayla, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Absolument.
Et cette
Même quand vous le chantez, vous, je me souviens. Comme quoi...
Cette Eurovision-là eut lieu en Irlande, à Dublin, et Shlomit était montée sur scène à ce moment-là en chantant, dansant, alors qu'elle était à la fin du 7e mois de grossesse. Mais ils ont terminé à la 7e place. Et aujourd'hui, on va quand même parler de Ha-Oreach, qui veut dire en quelque sorte l'invité, le visiteur, l'hôte. On en reparlera, et en fait, c'est parce que qu'elle est une des valeurs de Soukhot, c'est Hachnasat Orchim, l'hospitalité.
Absolument. Vous savez quoi? On va déjà écouter à quoi ça ressemble. Je crois qu'elle a une voix reconnaissable entre mille, notre ami Shlomit Aharon. Alors, de quel visiteur s'agit-il?
En fait, il s'agit de Olim Chadashim en quelque sorte. Naomi Shemer, elle a écrit cette chanson en 1984, à une époque où Israël accueillait un très grand nombre de nouveaux immigrants, venus principalement d'Éthiopie et de l'ex-Union soviétique. La Aliyah d'Éthiopie, entamée dans les années 70, s'intensifie dans les années 80 en raison de la famine, la guerre civile et les persécutions visant les Juifs en Éthiopie. Et elle prend forme d'opérations secrètes, telles que l'opération Moïse en 84, puis l'opération Salomon en 91, grâce auxquelles des milliers de Juifs, appelés les Beta Israël, rejoignent Israël en passant par le Soudan. Et parallèlement, Israël connaît aussi une immigration massive en provenance de l'ex-URSS, amorcée dans les années 80 à la faveur de la politique d'ouverture de Mikhaïl Gorbatchev. Et des centaines de milliers de Juifs russes sont montés en Israël. Et au début de l'an 2000, arrive le 1000e Juif russe en Israël.
Ah, bah dites-moi, mais quel est le rapport? Alors, je comprends bien, les nouveaux immigrants, c'est un peu des visiteurs dans un premier temps.
Voilà.
Mais quel est le lien entre les nouveaux immigrants et cette chanson? Est-ce que c'est que cela ou bien pas que?
Pas que, bien sûr, mais aussi. D'abord, on va parler du visiteur, qui signifie, comme je disais, le hôte. Et dans l'ancien, en fait, en français, hôte veut dire aussi bien celui qui reçoit que celui qui accueille, qui est reçu. Mais nous, on parle de Oreach, qui veut dire celui qui est accueilli. Et les sages du Talmud disent toujours que la hachnasat orchim, c'est-à-dire l'accueil des visiteurs, des étrangers, est beaucoup plus grand que l'accueil de la présence divine, de la shrina. La soukha est donc considérée comme un espace d'hospitalité, parce que il est coutume d'y inviter ses amis, les passants, les démunis, n'importe qui, quel étranger qui passe par là et doit être invité et bienvenu dans la souka. Et notamment, c'est en référence à la tente de Abraham Avinu, qui avait 4 ouvertures. Sa tente était ouverte sur les quatre coins du monde, dit-on, et que, comme ça, de chaque côté, il peut accueillir quiconque qui venait de n'importe quelle direction. Abraham Avinu accueillait généreusement tous les voyageurs dans sa tente, mais un jour, sans le savoir, il reçut la visite de 3 anges envoyés par Dieu, et ils lui ont annoncé la naissance de son fils Isaac. Et donc ce récit symbolise la valeur sacrée de l'accueil. En ouvrant sa porte aux autres, on peut aussi accueillir la présence divine elle-même. Donc on ne sait jamais qui va arriver. Il faut ouvrir ses portes. Chaque soir de Sukkot, on invite dans la souka aussi une figure biblique, liée à une qualité divine particulière. Et on se met sous son influence spirituelle. C'est ce qu'on appelle les ushpizin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler jamais. Des ushpizin. Ce sont en fait, selon chaque jour, les 8 jours, il y a Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph, David.
Chaque jour, prophètes en quelque sorte.
En quelque sorte, pas que. Chacun, c'est des figures, voilà.
Ils sont
chacun emblématiques. Chacun est porteur d'une autre vertu des séphirotes, les séphirotes. Et dans les séphirotes, bien sûr, Abraham, c'est celui qui porte le chesed. Mais bon, on y arrive. Mais le mot, déjà, ushpizin. C'est, beaucoup de gens parlent de ça, ceux qui connaissent la Sukkot. Mais d'où vient ce mot? En fait, c'est le ushpizin en araméen, ça vient de ushpiz, qui vient de uspis, et qui lui-même vient du latin, figurez-vous, que c'était hospes. Et du latin, il passe au grec, et puis l'araméen, et puis à l'hébreu. Et c'est comme ça qu'on a ce mot-là, parce que dans toutes les langues latines, nous trouvons les racines de hospes, hospital, hôpital, hostess, les hôtesses. Et en fait, le mot hôte, c'est ushpizin, c'est la même racine. Il s'agit clairement de l'hospitalité. Et d'ailleurs, en hébreu, mis à part le oréach, on trouve aussi le verbe l'ashpez, qui veut dire hospitaliser, ishpouz, etc., qui vient de la même racine.
Bien, et alors cette chanson, parce que hôpital, hôte, hôtesse, ça fait beaucoup d'endroits. Alors, elle raconte quoi cette chanson? Elle parle de quel type de, j'imagine bien quand même, hein, mais de quel type de réception d'une certaine
voilà,
façon.
Voilà, exact, la réception, l'accueil. Donc, il dit, et ça commence par « Im basha ariesh oréach » Nachat Me'everiam, si un visiteur frappe à notre porte, venu d'outre-mer après un long voyage, que pourrions-nous offrir à cet hôte, accostant des lointains rivages? Et puis arrive la réponse qui est notre refrain. Tene yarok, perach lavan, yain adom, pat be melach zema sheyesh, shev itanu kan. Un panier vert, une fleur blanche, du vin rouge, du pain au sel. C'est ce qu'on a, voilà tout. Viens t'asseoir ici avec nous. Le mot « tene » est fascinant. Il n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible. Il désigne le panier dans lequel on apportait les prémices au temple de Jérusalem, les bikurim. La présentation des prémices commençait à la fête de Shavuot, au printemps, à la fin de la moisson du blé, et elle se poursuivait jusqu'à Sukkot, à l'automne, qui marque la fin des récoltes des fruits. Voilà un des liens. À l'époque du temple, on montait en procession vers Jérusalem, dans une atmosphère festive, portant justement ces paniers verts remplis de premiers fruits de la terre. Symboliquement, les offrandes étaient déposées devant l'autel comme signe de gratitude envers Dieu. Concrètement, elles étaient remises au Kohen, le prêtre. C'était à la fois un acte de culte et un moyen de soutenir les prêtres qui ne possédaient pas de terres agricoles. Ce geste rappelait que la terre et ses fruits appartiennent en dernier ressort à Dieu et que l'homme n'en est que le dépositaire. Et voilà une petite parenthèse personnelle. Vous savez bien, Didier, que je viens de rentrer de vacances en Thaïlande.
Très bonne mine.
Et tout au long de mon voyage, je n'ai pas pu m'empêcher d'établir des parallèles entre le judaïsme et le bouddhisme. Leurs temples sont d'une splendeur indescriptible. On en compte plus de 40 000 en Thaïlande. Mais ce qui m'a surtout frappé, ce sont les mini-temples que l'on trouve à l'entrée des maisons. Et ce sont des petits sanctuaires où les habitants déposent régulièrement tous les jours des offrandes, le plus souvent des fleurs et des fruits. Aussi, chaque matin, À l'aube, on voit les moines bouddhistes qui sortent en procession avec un bol à aumône à la main et les fidèles qui déposent du riz, des fruits et même des plats préparés.
Ben, j'imagine qu'arrive ensuite le vin rouge, le pain, le sel. En fait, c'est une forme de kidouche locale, quoi.
Ben, en quelque sorte. Mais là, on va revenir au judaïsme.
J'espère bien.
Le kidouche, le repas de Shabbat ou le repas de fête, s'ouvre par deux bénédictions essentielles. Celle sur le vin et celle sur le pain.
Ben,
après les bougies, bien sûr.
Je voulais juste vous poser cette question. C'est vrai qu'on parle toujours du vin rouge. Pourquoi il doit toujours être rouge, le vin?
Ah ben voilà, très bonne question. En réalité, selon la halakha, on peut très bien faire le kidouche aussi bien sur le vin blanc que sur le vin rouge. Ça ne doit pas forcément être du rouge. Mais la tradition veut qu'on utilise plus fréquemment le vin rouge parce que, en terre d'Israël, les raisins rouges étaient beaucoup plus répandus que les raisins blancs. Les fouilles archéologiques même l'ont démontré, que la plupart des vignes donnaient des raisins rouges, tandis que les blancs étaient beaucoup plus rares. Ce phénomène s'explique par le climat chaud et sec du pays qui favorise les cépages à peau foncée qui sont plus résistants au soleil. Mais symboliquement, on dit que le rouge représente la vie parce que c'est la couleur du sang. Et le vin, il est porteur d'une force ambivalente. À petite dose, il réjouit et mène au bien. Mais à grande dose, il peut entraîner vers la démesure et le mal. Donc, au lieu de rejeter cette force, la tradition juive choisit de la sanctifier, le kadesh. Le kiddush exprime précisément cette idée-là. On va transformer une puissance terrestre en un instrument de sainteté. En le sanctifiant par la bénédiction Boré Pri HaGefen, on transforme un produit de plaisir en signe d'alliance avec Dieu. Le vin a une double origine. Il provient de la vigne, fruit de la nature. Mais il n'existe vraiment que grâce au travail de l'homme. Il symbolise ainsi la rencontre entre la création divine et la créativité humaine.
Un petit peu comme le pain, en définitive.
Exact. En fait, pour fabriquer du vin, il faut récolter les raisins, les écraser, laisser fermenter, clarifier, filtrer, etc. Et pour fabriquer du pain, c'est la même chose. Il faut semer, moissonner, moudre, pétrir, cuire, et ainsi de suite. Ainsi, le vin va élever l'esprit, tandis que le pain va nourrir le corps. Dieu fait pousser le blé et la vigne, mais c'est à l'homme de labourer la terre, d'inventer la manière de transformer ses fruits en nourriture raffinée. Le pain et le vin incarnent donc l'union entre le ciel et la terre, entre le divin et le travail humain. Et ça nous rappelle que la bénédiction divine a besoin de la collaboration humaine.
Mais finalement, le pain, on le trempe dans du sel, pourquoi?
Ah ben oui, le sel. Donc, au temple de Jérusalem, tout sacrifice devait être accompagné de sel. Donc, c'est un commandement, en fait, qui apparaît dans Vayikra, Beth, le Lévitique, et qui dit « Tu ajouteras du sel à toute offrande. Sur chaque sacrifice, de toutes les sortes, parce qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices, mais chacun d'entre eux, il doit y avoir du sel dessus. » Alors ça, déjà, ça commence par un commandement, mais bien sûr, après la destruction du temple, alors c'est la table familiale qui est conçue comme si c'était un petit autel. Tremper du pain dans du sel revient alors à, ça fait comme un écho à la pratique ancienne et c'est une manière de rendre tangible l'alliance du sel.
De quelle alliance s'agit-il en fait?
Ah ben oui, l'alliance du sel, la Brit HaMelach. C'est pas Brit Mila, Brit HaMelach. Il y avait plusieurs alliances, il y avait Brit Mila. Mais là, l'alliance du sel, elle est racontée en fait dans le Midrash Bereshit Rabba. C'est une sorte de légende midrashique qui passe en fait, qui fait référence au deuxième jour de la création divine du monde. Qu'est-ce qui se passe le deuxième jour de la création? Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il crée ainsi le firmament, le rakia, et le ciel, et l'eau, la mer, les océans. Les eaux d'en bas se mettent alors à pleurer, et elles disent « Maître du monde, pourquoi nous as-tu éloignés de toi? Pourquoi les eaux d'en haut demeurent-elles près de ton trône, tandis que nous, nous sommes relégués ici-bas, loin de la lumière divine ?» Alors, pour les consoler, Dieu conclut avec les eaux d'en bas une sorte d'alliance éternelle en leur disant « Oh, ne soyez pas affligés, vous serez aussi présentes dans le temple, car de vous viendra le sel qu'on offrira avec les sacrifices. Et c'est de vous qui seront puisées les eaux de la libation versées sur l'autel pendant les fêtes. » Ainsi, les eaux d'en bas reçurent la promesse d'être associées au service sacré. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance du sel. Le sel, par sa nature, conserve tout ce qu'il touche et rehausse la saveur de la nourriture. Le sel devient ainsi un pont entre la création d'en haut et celle d'en bas. Il est le signe que rien dans le monde n'est exclu de la relation sacrée avec Dieu. Et le sel provenant de la mer, des eaux d'en bas, devient donc un lien direct entre le monde terrestre et le monde divin, parce que on a en hébreu maïm, comment on dit de l'eau, maïm, et vous savez comment on dit le ciel? Shamaïm. Alors comment on explique ça? Shamaïm, c'est sham maïm. Là-bas, il y a aussi de l'eau. Donc il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et on peut aussi expliquer ça par les nuages qui, elles, bien reçoivent sûr. L'eau. Ça n'arrête pas de tourner. Les eaux d'en bas qui arrivent en haut et qui redescendent et ainsi de suite. Donc il y a le cercle.
Bien. En 2005, un rappeur israélien du nom de Shai360, pas encore vous faire l'injure de le dire en hébreu, va sortir une version rap de cette chanson de Naomi Shemer, et une chanson composée par un groupe bien connu de nos auditeurs, voilà. Subliminal.
Subliminal, on connaît bien, mais Shai360 est complètement inconnu au bataillon, je viens de le découvrir moi-même, mais il va reprendre le refrain de Ha-Oreach, et il va ajouter d'autres strophes, en racontant plutôt le quotidien de la vie israélienne. Et à la place de Ha-Oreach, il appelle cette chanson Pat Bemelach, ce qui veut dire du pain avec du sel.
Ah bon, bah écoutez ce que ça dit.
Eh bien, en fait, Pat Bemelach, bien avant l'époque biblique, dans de nombreuses cultures du Proche-Orient et d'Europe, le pain et le sel étaient considérés comme des aliments sacrés, utilisés dans les rites d'hospitalité et d'alliance. Dans beaucoup de traditions païennes, déjà, on offrait du pain aux divinités de la fertilité, de la terre, du soleil. En Grèce, par exemple, on offrait des gâteaux de farine à Déméter, déesse des moissons. En Égypte, on déposait des pains sur les autels d'Isis et d'Osiris. Chez les Slaves, le rituel d'accueil avec du pain et du sel est attesté dès le Moyen-Âge et existe toujours en guise de bienvenue et d'hospitalité sacrée. Aussi, le sel chez les Slaves symbolise la protection contre le mal. Ils vont en fabriquer des amulettes, contre le mauvais œil. Et même dans la culture arabe, le pain et le sel symbolisent un rapprochement. Celui qui a mangé du pain et du sel chez quelqu'un d'autre, il est considéré comme s'il lui est dû moralement et il est tenu de lui exprimer sa gratitude pour toujours. Donc, depuis à l'époque, en fait, post-biblique déjà, le christianisme, bien sûr, utilisera aussi les mêmes symboles, mais en modifiant leur signification. Ça, on le connaît. Le pain va devenir le corps du Christ, symbolisant la communion entre Dieu et les hommes. Aussi, on mettait un peu de sel béni sur la langue de ceux qui allaient être baptisés pour purifier leur âme. Et dans le judaïsme, pour revenir, l'eau symbolise la vie, la pureté de la Torah et elle purifie avec le mikvé, etc. Et dans le christianisme, pour y revenir, l'eau est un signe de renaissance par le baptême, elle lave du péché. Bref, c'est dans l'islam aussi, l'eau symbolise la miséricorde divine. Elle est essentielle aux ablutions de la prière. Donc, on le trouve partout.
Bah, en fin de compte, toutes les religions et cultures ont conservé ces gestes et ces symboles hérités finalement de nos ancêtres païens.
Exact.
Et chacune leur a donné un sens nouveau, adapté à sa vision du monde et à sa foi d'une certaine manière.
Ben voilà, merci pour cette conclusion Didier. Dans toutes les traditions, l'hospitalité est plus qu'un devoir, c'est un acte sacré. Accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu en personne. Alors s'il vous plaît, j'ai envie en cette matinée de libération des otages, je veux dire que voilà, on espère qu'ils vont tous rentrer et que ça soit vraiment la libération définitive de ce mauvais chapitre qu'on a vécu. Et je veux rappeler à nos ennemis ainsi qu'à nos amis que nous devons tous tendre les bras pour accueillir la paix et pour accueillir l'un l'autre. Revenons à ça.
Eh bien, parfait. Bien, quelle est la plus belle chanson que Oreach, le visiteur, pour illustrer cela. Merci beaucoup, Irit.
Merci, Didier.
À très vite pour un prochain une chanson, une histoire. Et on écoute à Oreach, version de base.
Habibi.
À Kolover Habibi.
לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שביטלנו כאן. קנה ירוק, פלח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שביטלנו כאן.
שביטלנו זה הבית, פריס פתוח למדבר.
שביטלנו כבן בית, לא כהלך זר. תנה ירוק, פלח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שביטלנו כאן. תנה ירוק, פלח לבן, יין אדום, פת ומלח, זה מה שיש שביטלנו כאן. פת ומלח, זה מה שיש שאיתנו כאן.